La province sud adopte son budget primitif 2026. Il se monte à 50 milliards 100 millions de francs, soit une baisse de 1 milliard par rapport à l'an passé. L'accent sera toutefois mis sur la relance économique. Au cours de cette séance publique, la province sud a adopté le plan d'urbanisme directeur des communes de Dumbéa, La Foy et Boulou-Paris. Pour en parler, nous recevrons le maire de La Foy, Florence Roland. Les communes et le monde associatif reposent sur une complémentarité naturelle et ont démontré leur résilience durant la crise de 2024. C'est un des points qui ressort de l'Observatoire des communes présenté par l'AFD ce matin. Les pompiers n'en ont pas terminé avec l'incendie de l'île des Pins. Les flammes sont reparties de plus belle cet après-midi en raison des mauvaises conditions météo sur place. 1000 hectares sont partis en fumée depuis le début de la semaine. Reconstruire une mobylette à partir de pièces détachées, c'est le défi qu'ont relevé des jeunes du lycée Jules Garnier cette année pour aider l'association des petits pansements du cœur. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Le ton est monté à l'Assemblée nationale entre le député Emmanuel Tchibaou et la ministre des Outre-mer lors de la séance des questions au gouvernement. Le député de la seconde circonscription a accusé l'État de vouloir passer en force avec la consultation anticipée des Calédoniens. Et Naïma Moutchou n'a pas apprécié cette mise en cause, Elisabeth Noir.
Le député de la seconde circonscription a ouvert cette séance de questions au gouvernement en interpellant la ministre des Outre-mer sur la stratégie de l'État en Nouvelle-Calédonie. Il met notamment en cause l'organisation d'une consultation citoyenne anticipée sur l'accord de Bougival dès le 15 mars, c'est-à-dire le jour du premier tour des municipales. Et il reproche à l'État de mettre la charrue avant les bœufs et d'organiser une négociation au forceps.
Vous aviez dit ici à l'Assemblée que le report des provinciales était une étape pour donner du temps, du sens au dialogue engagé en Calédonie. Si vous vous inscrivez dans la continuité des accords de paix, une consultation référendaire non inscrite à l'accord de Nouméa sur un corps électoral, on se pose la question, sans amendement, sans fondement juridique, sur un projet contesté qui pourra être mis en œuvre après une révision constitutionnelle, c'est mettre pour nous la charrue avant les bœufs. La semaine dernière, au Congrès, en commission, les groupes politiques ont exprimé leur opposition ferme à ce type de négociation au forceps. L'éveil océanien, Calédonie Ensemble, UNI et UCFLNKS se sont déclarés contre la consultation anticipée.
Le député Emmanuel Tchibaou qui prend clairement des libertés avec la réalité des faits concernant cette commission qui devait donner un avis sur l'organisation de la consultation. Le groupe UNI avait choisi de ne pas y participer. Le groupe UCFLNKS a voté contre sans surprise. Les élus calédoniens ensemble, l'éveil océanien, ont réservé leur vote pour la séance publique. Et finalement, la commission a émis à la majorité un avis favorable avec les voix des loyalistes et du rassemblement. Mais dans sa réponse, la ministre des Outre-mer a d'abord tenu à réfuter l'expression de négociation au forceps pour la consultation anticipée.
Je ne peux pas laisser prospérer cette petite musique qui consisterait à dire que la consultation anticipée, ce serait du forceps, vous avez employé cette expression, ou du passage en force. Donner la voix aux Calédoniens pour se prononcer sur leur avenir, précisément, il me semble que c'est l'exercice de la démocratie. La consultation anticipée dont nous parlons, ce n'est pas une demande de l'État. Je suis allée il y a quelques semaines en Calédonie, j'y ai trouvé des forces politiques qui ne se parlaient plus. Nous les avons remis autour de la table. Qu'est-ce qui a émergé de ces discussions? Quatre choses. Le soutien à Bougival, la nécessité d'apporter des éclaircissements, des précisions à l'accord, une consultation anticipée et un plan de relance, vous avez parlé de la situation économique, sur lequel nous sommes en train de travailler d'arrache-pied avec le Premier ministre, conscient de la situation économique très défavorable, très dégradée du territoire. Ce n'est pas une demande de l'État, c'est ce qui a émané des forces politiques elles-mêmes.
La ministre des Outre-mer, manifestement agacée par le procès qui lui est fait par le député Tchibaou, elle lui répond que l'État met tout en œuvre pour créer les conditions du compromis. Nous avons remis du mouvement, dit-elle, et envoyé une délégation de facilitateurs pour essayer de clarifier les points indispensables à l'accord. Et elle explique que c'est aux forces politiques calédoniennes de prendre leurs responsabilités parce qu'il n'y a pas de projet alternatif crédible ou partagé. Un échange un peu tendu à l'Assemblée, alors qu'à Paris, toujours, le Parti socialiste demande de son côté au gouvernement de suspendre la consultation citoyenne sur l'accord de Bougival. Il juge que cette initiative témoigne de l'absence de consensus réel sur l'accord signé le 12 juillet.
Et pendant ce temps, la mission des trois facilitateurs arrivée lundi se termine ce soir.
Thierry Lataste, Rémi Bastille et Benoît Lombrière quittent ce soir la Nouvelle-Calédonie où ils sont arrivés lundi. Ils ont eu de très nombreux entretiens avec l'ensemble des groupes politiques, mais leur mission s'est déroulée dans la plus grande discrétion. Ils n'ont fait aucune déclaration. On rappelle qu'ils étaient mandatés par le Premier ministre et la ministre des Outre-mer pour parvenir avec l'ensemble des partenaires à un accord consensuel sur l'avenir du territoire. Et pour cela, il devait travailler à identifier les éclaircissements et compléments éventuels souhaités par les forces politiques. Cette mission devait également proposer au gouvernement les ajustements qu'elle estimera nécessaires à l'accord de Bougival, avec pour objectif de lever les ambiguïtés, de consolider le texte et de favoriser l'adhésion la plus large possible. Mais malgré tous leurs efforts, il semble qu'ils ne soient pas vraiment parvenus à consolider l'accord de Bougival. Il faut dire que c'était compliqué. L'UCF-LNCS rejette toujours cet accord et refuse de participer à toute discussion le concernant. L'UNI qui défend l'accord a souhaité des améliorations, mais elle concerne des points d'équilibre du texte comme les modalités de transfert des compétences régaliennes et aucun consensus ne s'est engagé sur ces modifications. Calédonie Ensemble et l'Éveil océanien, de leur côté, ont pris leur distance avec le projet de loi organisant la consultation anticipée des Calédoniens et ils ne veulent aboutir qu'à un accord consensuel avec le retour autour de la table de l'UCF-LNCS. Les loyalistes et le rassemblement soutiennent toujours Bougival, mais ils ne veulent pas de modifications qui viendraient remettre en cause les équilibres trouvés le 12 juillet. Résultat, c'est un vrai casse-tête que les facilitateurs ne semblent pas avoir été en mesure de résoudre. La prochaine étape, c'est lundi, la séance publique du Congrès, qui doit donner un avis sur le projet de loi organisant la consultation anticipée des Calédoniens. On verra alors le positionnement des différents groupes politiques. Un avis défavorable risquerait de remettre la suite du processus en cours, parce que le Parlement, sans doute, traînera les pieds pour valider un texte qui n'aurait pas l'aval des Calédoniens. Le suspense ou l'incertitude vont donc se poursuivre encore au moins quelques jours, le tout sur fond d'attente de décision de l'État concernant l'aide financière à apporter à la Nouvelle-Calédonie.
Et nous reviendrons sur ces discussions autour de l'accord de Bougival demain midi en compagnie de Sonia Baquès, la présidente de la province sud et chef de file des loyalistes dans les discussions institutionnelles. Elle sera votre invitée, Elisabeth Noir, demain midi dans le magazine Transparence pour évoquer l'actualité politique calédonienne. Elle sera aussi interrogée sur l'actualité provinciale. Sonia Baquès, invitée de Transparence, c'est à suivre demain à partir de midi, juste après notre édition de la mi-journée. Et puis, actualité politique toujours. Christian Théin de retour en Nouvelle-Calédonie plus d'un an et demi après son départ pour être incarcéré en métropole. Son avion s'est posé vers 16h et le président du FLNKS est sorti discrètement, emmené dès son arrivée par ses proches sans faire de déclaration. Il doit prononcer le discours d'ouverture du congrès extraordinaire du FLNKS qui se réunit samedi à Ponérihouin. Rappelons que Christian Théin reste mis en examen après les émeutes de 2024 pour vol en bande organisée avec armes, destruction en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes et délits. Mais son contrôle judiciaire a été assoupli et il a donc été autorisé à rentrer en Nouvelle-Calédonie.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu, notre question du jour. Craignez-vous que le retour de Christian Théin en Nouvelle-Calédonie crée de nouvelles tensions? Si vous le craignez, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 31-46. La réponse à notre question d'hier, 96% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS se disent défavorables à une labellisation des médias comme l'a proposé Emmanuel Macron. Ils ne sont que 4% à se dire favorables à cette labellisation. La province sud adopte son budget primitif. Il se monte à 50,1 milliards pour 2026, soit une baisse de 1 milliard par rapport à 2025. La province sud affirme maintenir le cap malgré un contexte financier fragilisé. Nicolas Legrand.
La province sud compte soutenir la relance économique en modernisant les infrastructures publiques et notamment les administrations, les routes, les collèges ou encore l'habitat. Ainsi, l'investissement représente une enveloppe de 10,4 milliards de francs. Par ailleurs, de nouvelles mesures d'économie permettent de présenter un budget de fonctionnement en baisse de 6% à 1,360 milliards de francs. Quant aux interventions et subventions, elles se montent à 12,9 milliards en baisse de 6% là aussi par rapport à 2025. Mais malgré tout, la priorité reste mise sur l'enseignement, la santé et la protection sociale avec plus de 50% de cette enveloppe. Un budget qui a en fait été construit en estimant l'intervention de l'État au budget de la Nouvelle-Calédonie pour l'année prochaine, car pour l'heure, aucune annonce officielle n'a été effectuée dans le cadre du projet de loi de finances en cours d'examen au Parlement. Alors pour Calédonie Ensemble, Philippe Michel a évoqué un budget incertain, voire insincère. Et pour le parti de Philippe Gomès, il aurait souhaité qu'aucun exercice budgétaire n'ait lieu avant les réponses concrètes de l'État. Sonia Baquès, la présidente de la province Sud, est revenue sur ce constat.
On constitue des budgets pour permettre aux entreprises, aux Calédoniens de survivre et pour pouvoir fonctionner à partir du 1er janvier, mais finalement sans savoir à quel niveau l'État va nous accompagner. Donc on attend tous avec une grande impatience des engagements qu'on nous a donnés à l'oral. On attend maintenant des annonces concrètes, des inscriptions concrètes dans le projet de loi de finances de l'État. Sur les réponses de l'État, on a des informations qui pour l'instant ne sont pas officielles, mais et la mission interministérielle et les trois facilitateurs politiques qui sont là en ce moment nous ont indiqué qu'il y allait avoir des annonces du Premier ministre sur un plan de relance assez massif. Maintenant, pour l'instant, cette annonce n'est pas officielle et je crois qu'il y a aussi un lien entre le fait de savoir quelle sera la stabilité politique. Lundi, nous aurons à nous exprimer sur la suite de l'accord de Bougival. Pour avoir une stabilité économique, il nous faut de la stabilité politique. Donc je pense qu'évidemment, l'État fait le lien entre les deux.
Le député de la première circonscription, Nicolas Metzdorf, a lui aussi répondu en affirmant que le plan de relance de l'État serait de 36 milliards de francs, mais que cette aide ne serait versée que si les partenaires calédoniens tombent d'accord sur l'avenir institutionnel. Et il a lui aussi renvoyé Calédonie Ensemble au vote prévu lundi au Congrès concernant l'organisation de la consultation citoyenne sur Bougival. Ce matin, le budget a donc été adopté avec les voix des élus loyalistes et Rassemblement, qui considèrent qu'il est important pour les Calédoniens d'avoir doté la collectivité d'un budget avant la fin de l'année. On retrouve Sonia Baquès.
C'est un budget de responsabilité, c'est-à-dire c'est tout simplement dire on doit continuer à fonctionner. Ce budget, il a été fait sur la base des recettes de l'année dernière, sur la base aussi des recettes attendues auxquelles on ajoute le montant de ce qui reste dans le prêt de l'État. Donc en responsabilité, on pouvait voter ce budget et ça permet tout simplement de commencer à dépenser dès le 1er janvier. Ma responsabilité, c'est de faire voter un budget puisque tout simplement, si on ne le vote pas, on ne peut pas engager d'investissement à partir du 1er janvier. Ça veut dire concrètement que nos 10 milliards d'investissements qui sont prévus, ils ne pourraient pas commencer au 1er janvier, ce qui serait quand même dommage pour les entreprises qui aujourd'hui vivent principalement de l'investissement public.
Calédonie Ensemble a voté contre. Le groupe FLNKS et l'Éveil océanien se sont abstenus. Par ailleurs, lors de cette séance publique, la province Sud a voté deux dispositifs pour l'emploi et le soutien à l'investissement. Le premier, c'est Sud Relance, une mesure qui permet aux entreprises de cofinancer leurs besoins en trésorerie. Une société pourra en fait compléter un prêt contracté auprès d'une banque avec un financement de la province Sud et de BPI France. 1 milliard de francs sont fléchés au budget de la collectivité. Et puis l'autre mesure, c'est Sud Retour. Pour faciliter le retour des Calédoniens qui ont quitté le territoire depuis plus de 12 mois, la province Sud prendra en charge 120 000 francs du billet d'avion pour la personne embauchée en province Sud et 60 000 francs par membre de sa famille proche. La province aidera aussi l'employeur en prenant en charge le premier mois de salaire.
Et je vous le disais en titre, au cours de cette séance publique de la province Sud, le plan d'urbanisme directeur des communes de Dumbéa, Bouloupari et La Foy a été adopté. Il y a eu notamment de vifs échanges concernant la commune de La Foy. Et Nicolas Legrand, pour en parler, vous recevez le maire de la commune, Florence Roland.
Bonjour Florence Roland.
Nicolas.
Merci d'être avec nous ce soir à l'occasion de la validation de ce PUD par la province Sud. Avant d'évoquer cette actualité, peut-être une question d'actualité après l'agression d'un septuagénaire la semaine dernière sur votre commune, sur un parking. On en est où dans cette affaire? Comment va la victime d'abord et est-ce qu'il y a du nouveau dans l'enquête?
Écoutez, les forces de l'ordre ont été mobilisées sur l'enquête très rapidement, une enquête millimétrée qui a permis l'interpellation de deux individus. Aujourd'hui, l'enquête se poursuit et c'est donc maintenant le temps de la justice. Toutes mes pensées et bien évidemment à la victime qui est dans un état stable et bien évidemment à sa famille.
Vous avez parlé de l'enquête, la vidéo protection a fait son travail dans ce travail d'enquête.
Écoutez, nous bien entendu, la vidéo protection permet la résolution d'affaires rapidement, mais je dois dire que c'est aussi grâce aux liens des différents concitoyens qui ont pu œuvrer au renseignement qui aura permis l'identification de ces deux individus.
Donc là, les deux individus sont actuellement entendus dans le cadre d'une garde à vue ?
Ils sont entendus et ils le seront présentés très rapidement en jugement.
Merci de nous avoir fait part de cette actualité. Alors, on va parler du PED de la commune de La Foy, le plan d'urbanisme directeur qui a été adopté début novembre en conseil municipal. Concrètement, quelles sont les grandes lignes de ce PUD ?
Alors déjà, si vous me le permettez, je voudrais revenir sur c'est quoi un PUD. Un PUD, c'est vraiment, ça s'inscrit dans le code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie. C'est quelque chose qui est encadré et c'est un document stratégique qui donne une vision sur 10-15 ans de la commune de La Foy. Donc, c'est aussi un processus administratif long. Ça passe par des services territoriaux, des services provinciaux. Et bien entendu, en toute transparence, c'est la population qui est consultée et qui donne son avis également. Sur la vision de ce PUD-là, vous le savez très très bien, La Foy dans les années 80 a connu un essor économique assez important, essor économique qui reposait principalement sur des deniers publics. La Foy, on n'a pas de nickel, et donc c'est notre vision, c'est comment on arrive à faire du développement économique sur cette commune, à préserver l'environnement et à pouvoir fournir des résidences pour de futurs habitants ou des La Foyens actuels. Et donc c'est vraiment comment on crée de l'emploi sur cette commune de La Foy. Et donc c'est tout l'objet de ce PUD, donner de l'attractivité à La Foy. On n'a plus le choix de toute façon parce qu'on a connu une crise Covid et puis on a connu mai 2024, donc le public est à terre et donc c'est comment on arrive à remettre l'acteur privé au cœur du dispositif et c'est vraiment l'objectif de ce PUD-là et notre vision.
Et parmi les points importants de ce PUD, il y a Wano avec un aménagement sur une parcelle de 55 hectares. Il y aurait 250 lots, c'est ça, sur Wano ?
Alors, il y a Wano, il y a le sujet de Wano qui est un point d'achoppement. Je le dis et je le redis parce que je l'entends souvent sur les réseaux sociaux, notamment de par l'opposition. Il n'y aura pas de lotissement privé sur le domaine public maritime, ni sur la première plage, ni sur la deuxième plage, ni sur la troisième. Le domaine public maritime, il appartient à la province sud, il est en délégation de gestion à la commune de La Foy. On a mis plus de 14 millions en passant par des associations locales pour réhabiliter ces plages-là qui resteront ouvertes. C'est pas notre objectif, notre objectif c'est que les La Foyens continuent d'y aller. Maintenant, ceci étant dit, il y avait effectivement un projet de lotissement en terre privée, aujourd'hui qui n'ira pas plus loin, mais ça s'ancre aussi dans la vision de développement économique de La Foy.
On est plutôt sur les hauteurs.
On est plutôt sur les hauteurs. On a une zone tampon qu'on a rajoutée sur tout le DPM qui déborde même sur cette propriété privée. Aujourd'hui, il n'est pas question de lotissement, soyons très clairs. Ça me fait sourire d'ailleurs quand on dit qu'on veut fermer Wano et bétonner Wano, parce qu'il y a 30 ans de ça, c'est Calédonie Ensemble qui était à la tête de cette mairie et c'est des tonnes de sable qui ont été extraits à la Poquelin. Alors la valorisation économique du sable, elle a été très courte. Qu'est-ce qu'il en reste ? Rien aujourd'hui aux La Foyens. Nous, ce qu'on veut dire par là, c'est que demain, s'il y a de potentiels lotisseurs qui viennent déposer un permis de lotir, ce sera déjà un encadré par la commune, encadré par la province, un code de l'environnement. Ce qu'on peut imaginer aussi, parce qu'effectivement, on a une autre vision, l'exécutif de la commune de La Foy, elle a une autre vision du développement économique. On pourrait, pourquoi pas, imaginer un lotissement intelligent, un lotissement indépendant en termes électriques. On pourrait imaginer aussi des cuves de récupération d'eau. On n'est plus au temps des dinosaures. On est en capacité d'imaginer d'autres projets innovants qui préservent l'environnement, mais qui créent de la valeur ajoutée, qui créent de l'emploi aux Lafoyens. On est capable de mobiliser des entreprises dans le BTP, on est capable d'avoir des personnes, des patentés dans l'espace vert après, il y a vraiment une vision. Et encore une fois, parce que j'entends bien la critique de certains élus en assemblée de province, on me parle d'eau, mais on est en responsabilité aujourd'hui à la mairie de La Foy, on ne refera pas les mêmes erreurs qu'il y a 15-20 ans quand c'était Calédonie Ensemble. Juste, on a un lotissement de Le Bris qui a eu la conformité à l'époque où Calédonie Ensemble est à la tête de la province, sans eau, sans route. Donc aujourd'hui, on est en train de souffrir d'un manque d'investissement sur les réseaux d'adduction en eau potable sur cette commune, qu'on rattrapera parce qu'on a un schéma directeur, on fait les choses intelligemment, et le jour où un lotisseur viendrait s'installer, et bien évidemment, il participerait à l'établissement de ces réseaux en toute intelligence et de façon pérenne.
Alors vous le disiez, c'est un point d'achoppement, il y en a un deuxième, il y a les parcelles agricoles aussi, vous êtes très critiqué de la part de l'opposition de Calédonie Ensemble, qui reproche d'avoir finalement baissé ces parcelles agricoles. agricole dans le PUD. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce débat ?
Alors oui, aujourd'hui, on peut, puisque le PUD a été voté, diviser des parcelles agricoles de 150 à 50 hectares. Pourquoi on porte cette modification à l'intérieur du PUD ? Parce qu'aujourd'hui, on a des grandes surfaces agricoles, on a de la spéculation foncière qui ne permet pas une accession aux parcelles agricoles pour de jeunes agriculteurs ou de moins jeunes agriculteurs. Donc réduire ces superficies-là, c'est donner l'accès aux fonciers à de jeunes agriculteurs. Encore une fois, on a une vision de développement économique et d'attractivité, et je fais la parenthèse, l'État nous dit aujourd'hui que dans un plan de relance, il viendrait mettre du budget sur le secteur agricole. On veut se positionner comme une commune phare de brousse. On souhaite que les futurs agriculteurs, les futurs investisseurs viennent pour, encore une fois, pouvoir mener, diversifier l'agriculture sur nos territoires et puis innover avec de nouvelles techniques.
On sent à travers ce PUD que finalement, c'est la campagne pour les municipales qui est lancée. C'est véritablement le cas dans votre commune ?
Écoutez, alors moi, je ne suis pas en campagne. Je suis à la gestion d'une commune en bonne intelligence. Je vis à la fois. D'ailleurs, je suis à côté de Wanneau, donc on n'a aucun intérêt, et déjà, au travers de ce PUD, à mettre en péril la nature, ce qui nous entoure, les joyaux qu'on a sur cette commune-là. Mais bien évidemment, oui, on rentre en campagne et on peut sentir déjà qu'on a des alliances un peu contre nature, puisque je vous le rappelle, le FLNKS, l'Éveil océanien et Calédonie Ensemble votent contre ce PUD de la commune de La Foix.
Qui a finalement été adopté par les autres groupes politiques.
Qui a finalement été adopté, bien évidemment et bien heureusement.
Merci beaucoup Florence Roland.
Merci, Nicolas,
d'avoir été avec nous ce soir pour nous parler de ce plan d'urbanisme directeur. Je rappelle que vous êtes maire de La Foix, et pour revenir également sur cette actualité qu'on avait évoquée sur l'antenne de Radio Rythme Bleu, cette agression d'un septuagénaire la semaine dernière sur votre commune.
Merci.
Notez cette information, le report du congrès de l'UNI qui devait se réunir samedi à Bouraille. Il est reporté pour des raisons de deuil. Ce congrès se réunira le samedi 13 décembre, toujours à Bouraille. 2024, année de rupture pour le territoire. Pas de réelle surprise concernant l'Observatoire des communes de Nouvelle-Calédonie de l'AFD qui confirme que l'année 2024 aura été un tournant social et économique pour le territoire. La situation financière des communes a été durement affectés par la crise de 2024. Après une accélération en 2023, les investissements des communes ont connu un coup d'arrêt l'année suivante. De même, les dotations et participations, première source de recettes des communes, ont reculé de 16,5% sur un an, tout comme les recettes d'exploitation et les recettes fiscales qui enregistrent une chute conséquente. Toutefois, la situation se révèle moins dégradée qu'anticipée, explique Thomas de Gubernatis, directeur de l'Agence française de développement.
2024, année de crise, on voit une forte baisse des recettes de fonctionnement des communes, une réactivité assez rapide des communes pour essayer de maîtriser leurs dépenses, puisqu'elles ont réussi à réduire leurs dépenses de l'ordre de 10%, mais en fin de compte, une chute de leur épargne tout de même, l'épargne qui leur donne la capacité à ensuite notamment investir sur le territoire. La Nouvelle-Calédonie, traditionnellement, a été considéré comme le bon élève des Outre-mer. Aujourd'hui, on voit que les ratios des communes se situent dans la moyenne, voire pour le cas de l'épargne, encore légèrement au-dessus. Donc c'est plutôt positif. On voit qu'à fin 2024, les communes ont encore des moyens d'accompagner l'investissement.
L'AFD souligne également l'effort considérable et exemplaire des communes durant cette période particulière pour maîtriser leurs dépenses, permettant ainsi d'amortir partiellement le choc économique. Pascal Vittori, maire de Bouloupari et président de l'Association française des maires de Nouvelle-Calédonie.
Les maires ont été très réactifs et donc dès le mois de juin 2024, ils ont pris des mesures pour réduire leurs dépenses budgétaires et pour se caler donc sur la diminution de recettes, ce qui a permis donc aux communes de maintenir leur service à la population. Mais en même temps, il faut aussi relativiser parce qu'on voit que les communes de Nouvelle-Calédonie ne se portent encore pas trop mal si on compare à d'autres communes d'outre-mer. Et si on compare également aux communes de Mayotte qui ont été très touchées comme nous en Nouvelle-Calédonie.
Durant cette crise qu'a connue la Calédonie, les associations ont joué un rôle majeur dans le maintien du lien social, mais aussi économique. Ces dernières représentent environ 5% de l'emploi salarié en Nouvelle-Calédonie et génèrent une activité économique significative. Dans un questionnaire soumis aux communes par l'AFD, 100% des communes interrogées ont répondu octroyer des subventions à la suite de demandes reçues des associations. Le conseil municipal de Nouméa est réuni depuis 18h à l'hôtel de ville. Deux points sont à l'ordre du jour. La décision modificative numéro 2 du budget primitif de la commune et une convention de financement dans le cadre du dispositif de solidarité républicaine pour l'année 2026. Et notez enfin notre rendez-vous sur notre antenne. Le régiment d'infanterie de marine du Pacifique renoue avec une belle tradition en organisant le 13 décembre prochain une journée porte ouverte. Nous en parlerons demain matin à 7h30 avec le lieutenant-colonel Belbeoc, le chef de corps du RIMAPNC qui sera notre invité du matin. Nous évoquerons également avec lui les 80 ans du retour du bataillon du Pacifique en Nouvelle-Calédonie à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, un anniversaire qui sera célébré l'an prochain. Il est 18h passé de 10 minutes, première pause dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité sur le territoire. À tout de suite.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Le jeu Mac Family Voyage revient chez McDonald's du 18 novembre au 12 janvier. Collectionnez les cartes Mac Family et tentez de gagner plus de 6 millions de francs de cadeaux. Au programme, 3 voyages de rêve à Tahiti, en Thaïlande et à la Gold Coast. Mais aussi des PC, des Samsung S25, des Nintendo Switch 2, des Boombox et des milliers de produits McDonald's. Alors, prêt à tenter votre chance? Rendez-vous dans votre McDonald's préféré.
Info soir, Léana Colombo.
La situation de la NMC continue de faire réagir. Hier, à l'initiative d'une intersyndicale, près de 400 personnes ont manifesté leur inquiétude devant le Haut Commissariat, Jean-François Baudin.
La NMC est menacée à court terme de cessation de paiement et 600 salariés sont concernés, sans oublier les quelques 2000 emplois de sous-traitants. Une délégation a été reçue au Haut-Commissariat à l'issue de la manifestation d'hier pour lui faire part de sa nécessité d'une intervention de l'État. Rappelons que la Nickel Mining Corporation, détenue à 51% par la SMSP, exploite 4 sites miniers destinés à alimenter l'usine offshore sud-coréenne de Gyeongwang et que plusieurs de ces sites ont subi plusieurs mois de blocage depuis un an et demi. Dans un communiqué, le SEM, le syndicat des exploitants et exportateurs de minerais, parle d'une situation financière très inquiétante et tient à exprimer à la NMC tout son soutien dans cette période difficile. Le SEM souligne que l'arrêt des activités de la compagnie aurait des conséquences catastrophiques pour l'économie de la Calédonie en général et plus particulièrement pour les communes de Brousse dans lesquelles elle est implantée. Réaction également du Sénat coutumier par la voix de son président Ludovic Boula, qui manifeste son soutien aux employés de la compagnie et appelle à la sauvegarde d'un pilier économique et social en sollicitant l'engagement de l'État, des autorités publiques, des acteurs privés et des forces vives pour, je cite, « ne pas laisser la Nouvelle-Calédonie devenir un pays sinistré ».
Le comité de coordination coutumière de Jeou s'oppose au déménagement des services aéroportuaires de Magenta vers Tontouta. Dans un communiqué, ce comité dénonce une décision qu'il juge unilatérale qui va aggraver, selon lui, les inégalités territoriales. Le président du gouvernement, Alcid Ponga, portera l'entière responsabilité des perturbations et des risques générés, je cite, par son obstination à imposer ce transfert malgré les alertes répétées des autorités coutumières et des populations. Le comité annonce des actions de terrain sur l'ensemble des îles à Nouméa, Wanaam, Magenta et Tontouta en décembre, janvier et février, qu'il annonce pacifique et encadré. Actualité aérienne toujours. Afin d'assurer la continuité et la régularité de son programme de vol, Air Calin a affrété un Boeing 777-200 au prix de la compagnie européenne Euro-Atlantic Airways. L'appareil est arrivé ce matin en Nouvelle-Calédonie et il a débuté ses premières rotations vers l'Australie. L'appareil opérera principalement des vols entre Nouméa et Singapour. Les pompiers toujours activement mobilisés à l'île des Pins. Ce matin, les soldats du feu étaient parvenus à maîtriser l'incendie qui ravage l'île depuis plusieurs jours déjà. Mais au cours de la journée, les conditions météorologiques se sont dégradées. Le feu a repris du côté du plateau de Cougné et cet après-midi, les flammes progressaient vers l'aérodrome de Mouet sur un kilomètre de front de flammes. C'est ce que nous a dit le capitaine Rossignol, officier de permanence de la DSCGR.
Actuellement, le feu est toujours actif, le vent s'est levé et on a été confronté à des reprises de feu virulentes. La complexité de l'île des Pins, c'est que le vent change souvent d'axe. Vous éteignez d'un côté, ça ressouffle de l'autre, donc un petit peu le chat et la souris, justement pour aller mobiliser nos équipes à gauche, à droite, sur le tour du feu. Mais malgré tout, nos équipes sont 20 heures par jour à essayer de limiter l'impact de feu sur l'île des Pins. Actuellement, on est en train de préparer une mission de renfort demain par avion Air Calédonie pour venir renforcer et remplacer nos hommes qui sont depuis 36 heures à pied d'œuvre. Voilà, et on poursuit le dispositif tout le week-end. Et là, on est en train d'étudier l'envoi de véhicules par le Bétitio samedi matin.
Depuis hier, les flammes ont avancé sur 400 hectares. Ce sont donc près de 1000 hectares de végétation qui sont partis en fumée depuis lundi après-midi. Le plan Orsec feu de forêt de niveau 2 est toujours actif. La situation semble s'apaiser au moins provisoirement au collège de Connay. Le sit-in d'une partie des parents d'élèves soutenus par l'UGPE a été levé aujourd'hui et les banderoles ont été retirées. La mobilisation avait débuté il y a 10 jours. C'est une affaire de harcèlement d'une élève qui est à l'origine de ce mouvement, alors que plusieurs parents n'ont pas accepté que leur enfant soit mis en cause. Le vice-recteur s'est rendu sur place hier pour tenter d'apaiser les choses. Le GPE a donc mis fin à la mobilisation, mais de manière temporaire, ajoute le groupement des parents d'élèves, qui réclame toujours le départ de la principale et se dit prête à reprendre le mouvement si aucune réponse concrète n'est apportée aux familles. Le JPNC, Groupement pour l'insertion et l'évolution professionnelle, se dote d'un nouveau simulateur de navigation maritime de dernière génération. Cet outil high-tech va permettre au pôle métier de la mer du GIEP de renforcer la place de la Calédonie comme référence régionale en matière de formation maritime. Ce simulateur a été inauguré ce matin et c'est une vraie satisfaction par le directeur adjoint du GIEP, Pascal Velasco.
C'est une journée particulière parce qu'on travaille depuis 2 ans pour obtenir cet équipement. On a pu se doter de ce nouveau simulateur qui est complètement immersif, avec donc 2 parties. Une partie exercice avec 3 barres où les stagiaires vont pouvoir s'entraîner à travers des scénarios pédagogiques qui sont construits par les formateurs. Et puis un poste principal où on est vraiment sur une passerelle de bateau. Là, c'est plus réservé à l'évaluation. Donc là, vous êtes sur un scénario que le formateur a construit dans le port de Nouméa où vous avez différents bateaux qui sont en interaction dans le port de Nouméa en entrée et en sortie, aussi bien des paquebots que des petits que des gros bateaux. Et donc les stagiaires vont devoir répondre à cette situation évolutive, puisqu'on est parti sur du calme plat. Et puis là, la houle est en train de se lever, le sens du vent est en train de changer, la pluie va arriver. Donc on peut paramétrer tout ce qu'on veut pour se rapprocher le plus efficacement possible de la réalité.
Samuel Népéoun, membre du gouvernement en charge de la formation professionnelle et président du conseil d'administration du GIEP, a pu s'essayer à ce simulateur. C'est une révolution, nous a-t-il dit, pour la formation dans le secteur maritime.
Là, en termes de technologie, en termes d'innovation, c'est quelque chose qui nous change complètement d'air. Avec des simulateurs, une salle de pilotage pour l'instructeur, et dans une autre salle, vous avez 3 personnes qui peuvent piloter en même temps 3 navires, dans la grande rade par exemple, et les 3 qui manœuvrent en même temps et faire en sorte que ça ne se percute pas. C'est des vraies simulations en situation réelle. Quand on essaie, on a même l'impression d'avoir le mal de mer, parce qu'ils sont capables de simuler de la pluie, de l'orage, de la tempête, un cyclone. C'est un super outil, très moderne, et qui permet aux gens en pleine formation de pouvoir vivre des situations les plus extrêmes, en tout cas de leur garantir une formation de très très haute qualité.
Ce nouveau simulateur de navigation maritime dernière génération a coûté 60 millions de francs. L'État a assuré 80% de sa prise en charge par le biais du Fonds d'intervention maritime.
Vous écoutez RRB, il est 18h17.
La mobylette fait peau neuve. Pendant 6 mois, 8 jeunes de terminale du lycée Jules Garnier ont travaillé sur un vieux cyclomoteur. Elle leur a été confiée par l'association des petits pansements du cœur. Chaque année, les bénévoles organisent une campagne SMS pour venir en aide aux enfants malades. Ils la relaient sur tout le territoire à mobylette et pour leur prochaine escapade, les bénévoles pourront utiliser un véhicule entièrement rénové par les jeunes du lycée Jules Garnier. Le président de l'association Patrick Monnier leur a lancé le challenge en 2024 de réparer une mobylette à partir de pièces détachées.
Lorsque j'ai vu cette mobilette, j'ai dit, tiens, pourquoi ne pas faire un projet et puis essayer de faire travailler des gamins autour de ce projet afin de fédérer et de faire une belle action commune pour l'association. Là, c'est le premier gros projet que l'on fait avec le lycée Jules Garnier. En attendant l'année prochaine, on va peut-être lancer un second projet. C'est-à-dire que dans la continuité, on va faire par l'atelier ferronnerie une remorque pour pouvoir justement mettre des mobilettes dessus et pour pouvoir se déplacer dans différentes communes éventuellement.
L'association Les Mobs du Cœur existe depuis 2 ans maintenant. Leurs actions sont à suivre sur le site internet lesmobsducœur.com.
Au cœur de Noël avec l'OPT. Pour que Noël soit une fête pour tous.
Et voilà, un peu moins de 2 semaines que l'opération Au cœur de Noël a été lancée et vous êtes de plus en plus nombreux à venir chaque jour à la radio. Pour cela, un grand merci à tous. Rappelons que tous les cadeaux que vous apportez pour les enfants seront distribués par nos associations partenaires aux familles en difficulté. Vous pouvez passer tous les jours de 7h à 19h à Radio Rythme Bleu aux 4 rues de Sébastopol. Vous pouvez aussi déposer vos cadeaux à Petit Dôme, route de Lanzvata. Et merci encore une fois pour votre générosité. 18h19, seconde pause dans ce journal avant de dire un mot de sport et de la voile même.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Des conseils concernant les placements, l'épargne, les SCPI ou encore la retraite ? Caplif, votre expert calédonien en gestion de patrimoine, vous accompagne avec des solutions personnalisées. Caplif, depuis 35 ans à vos côtés. Et ce n'est que le début. Contactez Caplif au 28 30 00. RIAS 170 052, ORIAS 13103.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegale@rrb.nc ou au 25 46 46. RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La fin de votre journal Le Sport avec Lana Colombo.
En voile, la Sydney au Bart 80e édition, dont le départ sera donné le 26 décembre, sera le grand rendez-vous sport de cette fin d'année dans la région. Une course mythique dans des conditions qui mettent souvent les équipages à rude épreuve. Cette année, 3 équipages calédoniens sont engagés. Poulpito MLS, skippé par David Tréguier, avait déjà pris le départ l'an dernier et tentera la gagne cette année dans sa catégorie. Même challenge pour Eye Candy, vainqueur de la Groupama Race 2022 qui est désormais basé à Sydney et qui serait skippé par le Calédonien Malo Le Seigneur. Le 3e bateau engagé est BNC Mainet, skippé par Michel Quintin qui va lui disputer sa 3e Sydney Hobart avec un challenge bien particulier.
C'est une course mythique pour beaucoup et même pour les Européens qui rêvent de venir se confronter et venir participer à cette course. Nous, c'est la 3e participation du bateau. La dernière fois, c'était en 2017, donc ça commence à dater un petit peu. Et là, la particularité, c'est que on attaque la course, mais cette fois en double, c'est-à-dire à 2 à bord seulement. C'est une nouvelle catégorie qui est apparue il y a 3 ans sur la Sydney Hobart. On voulait relever le challenge. On a vécu toute l'année en double pour ça depuis plusieurs années. Et voilà, donc c'est un peu l'aboutissement après la Groupama de pouvoir aller faire la Sydney Hobart.
Michel Quintin et son coéquipier Yann Régal prendront la route de Sydney avec BNC Mainet ce week-end. Poulpito MLS suivra quelques jours plus tard. 18h22, on passe tout de suite à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et voyons toute la météo avec vous, Pierre.
Cette nuit, sur le nord de la Grande Terre, Bellep, le nord des Loyautés et l'extrême sud, le ciel restera chargé avec quelques averses possibles sur le nord-est, la pointe nord et Bellep. Ailleurs, on observera une alternance de nuages et d'éclaircies. L'alizé de sud-est restera bien établi, soufflant entre 15 à 20 nœuds en début de nuit, puis autour de 15 nœuds en fin de nuit. Les minimales seront en baisse, de 14 à 18 degrés à l'intérieur des terres et de 19 à 24 degrés dans le littoral. Demain matin, sur la façade ouest, le soleil dominera, même si un léger voile nuageux pourra s'inviter, mais tant qu'il est léger, il reste le bienvenu. Ailleurs, les nuages circuleront davantage, surtout aux extrémités de la Grande Terre. De petites ondées pourront toucher la pointe sud et l'île des Pins en début de journée. L'alizé de sud-est soufflera généralement entre 15 et 20 nœuds, avec un vent un peu moins marqué sur les Loyautés. Côté marée, la mer sera basse cette nuit vers 1h31 et remontera demain matin pour une pleine mer à 8h13, avant de redescendre de nouveau demain après-midi autour de 14h19.
Et merci beaucoup Pierre, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.